magazine de l'environnement, ce matin, le danger s'habille en vert. Fabrice Nicolino, on pourrait commencer par une sorte de happy end. Je vais vous lire un communiqué de presse qui, il y a quelques jours à peine, il y a eu la Technoparade à Paris, Technoparade 2007. C'est un communiqué de presse des jeunes agriculteurs. Le char des jeunes agriculteurs fête la planète et rythme nos cultures. L'environnement est au cœur du thème de la Technoparade 2007. Jeunes agriculteurs profitera de cette rencontre pour communiquer sur le métier d'agriculteur et sur son rôle d'acteur du développement durable. Le plus gros tracteur de la gamme Same Deutsch Fahr va tirer un plateau de 30 mètres. Le DJ Joren et ses platines seront installés sur le char, entourés d'une fresque peinte représentant les différentes cultures permettant la production de biocarburants, le blé, le colza, la betterave. Sous le slogan « L'agriculture rythme nos cultures », une cinquantaine de jeunes agriculteurs seront présents pour animer le char. Vous êtes heureux ?
Ah oui, vraiment, je suis heureux. Je riais en vous entendant parce que, évidemment, c'est la première réaction saine, me semble-t-il, c'est d'éclater de rire. Je ne vais pas vous imposer ça à la radio, mais intérieurement, en tout cas, j'éclate de rire. Si vous voulez, ces gens sont certainement pris dans des... Bon, vos auditeurs doivent en savoir quelque chose. Donc ces gens, ces jeunes agriculteurs, les vieux agriculteurs, les agriculteurs en général sont pris dans des contraintes terribles, etc. etc. Mais moi, c'est pas mon rôle, finalement, de dire ça. C'est terrible. C'est terrible. C'est consternant, et c'est angoissant. Je vais essayer de dire pourquoi.
D'abord, on va expliquer pourquoi cette consternation et pourquoi ce démarrage en fanfare, c'est le cas de le dire. C'est parce que Fabrice Nicolino, vous publiez ces jours-ci, à sortir la semaine prochaine, un nouveau livre chez Fayard. On n'a pas encore oublié le scandale des pesticides, publié l'année dernière. Mais voilà que vous revenez avec cette fois la fin, non pas happy ou sad end, mais la fin, celle qui tient au corps, la bagnole, le blé. Et nous. Et c'est un livre d'enquête et d'analyse rigoureuse et rageuse sur ce qu'on appelle les biocarburants.
Oui, en effet, rageuse, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que je suis profondément en colère et que ça se sent dans ce livre. C'est vrai. En quelques mots, de quoi s'agit-il ? C'est une vieille idée, les biocarburants, les précurseurs de l'industrie, automobile en particulier, Rudolf Diesel, ça parlera à tout le monde, Diesel c'est celui qui a inventé évidemment le moteur Diesel, ou Henry Ford qui a inventé la Ford T, qui a longtemps, très longtemps été l'automobile la plus vendue au monde, et bien ces braves gens-là, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, faisaient déjà rouler leurs engins avec des huiles végétales. Donc c'est une vieille idée, c'est une idée ancienne, l'idée que des huiles ou des plantes peuvent, après trituration et après modification, servir de carburant aux automobiles. Bon, l'histoire avait été un peu abandonnée ensuite pour une raison très simple, c'est que le pétrole ne valait rien. Le pétrole, c'est une matière première assez extraordinaire, même si elle nous pose des problèmes monstrueux aujourd'hui. Le pétrole ne valait strictement rien, et donc cette idée de faire rouler des bagnoles avec des huiles végétales ou des plantes alimentaires avait été abandonnée. Puis, bon, il y a eu toute une série d'événements sur lesquels je passe rapidement. Il s'est passé en France quelque chose de considérable, c'est des crises, disons, récurrentes de surproduction agricole. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'agriculture est devenue une industrie. C'est-à-dire l'agriculture n'est absolument plus l'agriculture, tout simplement. Ces braves gens de jeunes agriculteurs dont vous me parliez il y a quelques minutes oublient un détail qui n'en est pas un, c'est que l'agriculture, telle qu'elle a été pensée et pratiquée par les humains pendant 8000 ans, a disparu. Elle a disparu très grossièrement après la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1945-46, l'agriculture est devenue une industrie. Et une industrie avec des capacités de production assez démentielles à coup d'engrais, de pesticides, vous connaissez la chanson comme moi, hélas. Et cette agriculture industrielle, eh bien, elle a perpétuellement créé des phénomènes de surproduction, avec des problèmes de débouchés. Comment faire pour fourguer, pardonnez-moi l'expression, toutes ces surproductions, ces merveilleuses surproductions agricoles. Et en 1992, c'est très simple, il y a une réforme de la politique agricole commune, toujours en relation avec ces surproductions. Et là, l'Union européenne a décidé de geler 15% des terres céréalières sous forme de jachères, ce qui n'était pas vraiment des jachères, parce que des jachères, c'est des lieux où on ne cultive pas. Le lobby de l'agriculture industrielle avait réussi un coup sublime, à mon avis, c'est-à-dire obtenir de l'Union européenne des primes pour geler, entre guillemets, ces terres, 15%, donc, des primes importantes, mais avec une condition qui était à l'époque passée totalement inaperçue, à savoir qu'il était possible de cultiver sur ces jachères, avec les guillemets qui s'imposent, à condition que ce soit à des fins non alimentaires.
Condition passée inaperçue à l'époque, mais est-ce que véritablement elle a été employée? Je vous pose la question parce qu'on y reviendra certainement, Fabrice Nicolino, mais aujourd'hui se pose la question de l'emploi de ces jachères. Donc je pense que c'est important de préciser d'entrée de jeu si les fameuses jachères ont été ou non véritablement gelées depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui environ. Jachères dont on sait qu'elles sont des refuges pour la biodiversité.
Oui, bon, c'est un peu compliqué d'entrer dans le détail. Ça varie d'une année sur l'autre. Disons, on peut dire que depuis 15 ans en France, il y a entre 1 million et 2 millions d'hectares de terres agricoles qui n'ont pas été cultivées, on va dire. Et donc, qui était en effet un refuge pour cette biodiversité tout à fait ordinaire, qui comptait énormément pour moi, et j'espère pour vous tous, c'est-à-dire les petits mammifères, les oiseaux, les insectes, les papillons, etc. C'est des zones refuge extraordinaires pour la faune et la flore. Et Dieu sait qu'on parle de biodiversité en France aujourd'hui. Donc, ces jachères, ça a varié, mais aujourd'hui, ça date d'hier, vous voyez, enfin moi j'ai appris hier en tout cas, hier, la Commission européenne a décidé de, pour la campagne agricole 2008, de supprimer totalement la jachère. C'est-à-dire, on revient à une situation de 0% de jachère en Europe, en relation directe, je dis bien directe, avec les biocarburants.
N'allons pas trop vite. Je vous ai interrogé sur la jachère, mais restons à 1992. Instauration donc du gel de 15% des terres agricoles pour de la jachère, sauf à cultiver, dites-vous, des cultures non alimentaires, et retour de cette fameuse huile végétale qui avait disparu après Ford et Diesel et après le formidable boom du pétrole.
Oui, oui, enfin j'ai dit huile végétale, mais aussi, c'est pas seulement des huiles végétales, hein, c'est des esters, il y a différentes techniques, disons, de production de biocarburant à partir de plantes, à partir de végétales. Bref, c'est vrai qu'en 92, si vous voulez, il y a eu la création d'un lobby extraordinaire en France, totalement inconnu hein, du grand public. Je suis pratiquement certain que peut-être à peine 3% de vos auditeurs en ont entendu parler. Il y a un lobby extraordinaire qui s'est mis en place, évidemment, enfin avec toujours les mêmes responsables, hein, des industries, des industriels, des responsables de la FNSEA pour ne pas la nommer, toute une série de gens, de producteurs qui cherchaient à déboucher. Ils cherchaient tout simplement un débouché. Il n'y a pas d'autre explication au boom des biocarburants que celui-là. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc on cherchait, l'agriculture industrielle produisait trop, cherchait des débouchés. Ils ont commencé à taper à la porte d'un certain nombre de politiques. Certains les ont écoutés avec beaucoup d'intérêt. Ils ont commencé à parler de biocarburants d'abord à voix basse. À voix basse, pour une raison très simple, c'est qu'à cette époque lointaine déjà, 92, 93 et même 94, on n'avait aucun argument valable à faire valoir, si vous voulez. Le prix du pétrole était bas, le lobby n'avait pas réussi à dénicher cette trouvaille dont je vais parler juste après, qui consiste à faire croire que les biocarburants sont très bons pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, on était dans l'embarras. Il fallait justifier le fait de trouver des débouchés commerciaux sans autre raison que celle-là, trouver des débouchés commerciaux, et ça a été difficile. Mais le lobby s'est créé dans le silence, dans les coulisses, dans ces années décisives entre 92 et 94.
Il faut peut-être préciser quelque chose à ce point de l'entretien, Fabrice Nicolino, c'est que les plantes dont vous parlez, qui servent donc à faire des biocarburants, sont les mêmes qui servent également de culture alimentaire. C'est-à-dire qu'on est là, quand vous parlez de surproduction, c'est pas que tout à coup on s'est amusé à produire en masse des plantes qui allaient servir à fabriquer des biocarburants, c'est qu'on avait ces cultures-là. on avait du soja, on avait de la betterave, on avait... Oui,
enfin, c'est vrai qu'il s'agit de... Il faut bien comprendre, vous avez raison, je crois qu'il faut expliquer simplement les choses. Il s'agit de... Pour l'essentiel, pas seulement. On peut faire des biocarburants à partir d'à peu près n'importe quel végétal. Dans la réalité du marché mondial tel qu'il existe, il s'agit de transformer en carburant, en biocarburant, bien que le mot soit impropre, des plantes alimentaires. En France, c'est plutôt le colza, le tournesol, mais aussi bien du blé. Ça peut être du blé. Aux Amériques, c'est du maïs. En Amérique du Nord, c'est le maïs. En Amérique du Sud, c'est plutôt le soja et la canne à sucre. En Afrique et en Asie du Sud-Est, c'est plutôt le palmier à huile. Et donc, tous ces produits végétaux qui seraient très utiles à la nourriture des humains passent et passeront toujours plus dans la fabrication de biocarburants. J'en étais à ce point très important de la création d'un lobby en faveur des biocarburants sans avoir trouvé encore l'argumentaire de propagande qui aurait permis de faire passer cette chose-là en 94. En 94, il s'est passé un événement, évidemment passé inaperçu comme beaucoup d'autres événements importants. Le lobby a trouvé une place dans les structures d'État. Le lobby s'est installé, il y a un réseau qui s'appelle AGRIS et qui est né à l'intérieur de l'ADEME. L'ADEME, je le dis pour vos auditeurs qui l'ignoreraient, c'est une agence publique pour la maîtrise de l'environnement et de l'énergie qui est considérée, pour aller vite, un petit peu comme écolo, qui dépend du ministère de l'écologie, de M. Borloo, qui prépare, comme vous le savez, le Grenelle de l'environnement. Et donc l'ADEME abrite depuis 1994 le cœur nucléaire, si je peux me permettre cette expression, du lobby des biocarburants sous le nom d'AGRIS. AGRIS, qu'est-ce que c'est? C'est une assemblée tout à fait étonnante qui rassemble des hauts fonctionnaires, des responsables donc de l'État, du ministère de l'écologie, de l'ADEME, et puis des structures privées, des entreprises qui ont un intérêt direct à la fabrication et à la commercialisation des biocarburants.
Et AGRIS, ça signifie ?
Ça veut dire agriculture pour la chimie et l'énergie. Et c'est une structure vraiment assez fascinante. Moi, je vous avoue que je ne savais pas qu'existait comme ça dans des appareils d'État et a fortiori au cœur du ministère de l'écologie, des structures qui mélangeaient d'une façon aussi étonnante et détonnante des intérêts privés et des intérêts publics.
Ça, je de quelle manière?
Eh bien, il y a des études qui sont menées en commun, il y a des financements communs d'études très importantes. Et puis là, je crois que c'est un sommet. Je ne sais pas s'il faut l'évoquer de suite. Il faut savoir un truc qui paraîtra difficilement croyable, c'est que toute la politique française en faveur des biocarburants, toute la totalité de ce qui est fait en France en faveur des biocarburants repose sur une seule et unique étude qui a été publiée en 2002, qui a été demandée, commandée par l'ADEME, cette agence écolo, entre guillemets, dont je parlais à l'instant, et puis la DIREM, qui est une direction du ministère de l'Industrie. C'est une étude sur le bilan énergétique et écologique des biocarburants. C'est une étude qui est très contestée. Vous verrez, ceux qui en tout cas lire verront comment elle l'est, par qui elle est. Elle l'est aussi par moi, je vous rassure, elle l'est fondamentalement pour une raison très simple, c'est que l'ADEME et la GRIS, sa création, ont accepté que cette étude soit dirigée en fait par un comité de pilotage dans lequel figure l'essentiel du lobby industriel des biocarburants, la grande industrie, des entreprises très très importantes de l'agro-industrie et de l'agrochimie, y compris des transnationales. Donc c'est vraiment du gros, c'est pas des petites choses. Et cette étude, si vous voulez, quel mot employer? Je vous avouerai franchement que j'hésite parce que il y a le risque très évident d'une poursuite en diffamation dans un domaine aussi sensible que celui-là. Disons que cette étude, pour moi, n'a pas de valeur. Elle est contestée de façon technique, non pas par moi parce que j'en suis incapable, mais par des gens en qui j'ai une réelle conscience. Elle est contestée, ses conclusions sont contestées, et je sais de sources sûres et certaines que l'ADEME est très embarrassée d'avoir à justifier la politique française en faveur des biocarburants à partir de cette seule étude, qui est très mauvaise et envisageait ces dernières semaines de lancer une nouvelle étude avant la fin d'année 2007. Tout le dispositif en France repose sur une étude qui a été pilotée par l'industrie. Voilà, ça c'est ça qu'il faut retenir, et c'est à mes yeux totalement scandaleux. Mais il n'y a pas que la France, bien entendu.
Alors là, vous me prenez un peu de court, Fabrice Nicolino, parce que je ne pensais pas que vous alliez partir directement sur cette fameuse étude qui a été confiée en effet à un cabinet international et néanmoins privé. Mais je pensais beaucoup plus à ces étonnants partenariats financiers qui mêlent des finances publiques à des recherches d'ordre privé et qui surtout, si je ne m'abuse, rendre l'ADEME aveugle sur l'emploi de ces fonds, c'est ça ?
Oui, oui, non, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et il faut savoir que donc Agris est né en 1994. Et il y a environ 180 projets autour des biocarburants, dont des études, qui ont été réalisés dans ce cadre-là. Alors, évidemment, c'est curieux, parce que, si vous voulez, Agris, très grossièrement, c'est l'État. C'est l'argent de tous, c'est le service public, on va dire. Et il y a des intérêts privés. Donc, je l'ai dit, qui sont à l'intérieur d'Agris, mais je dois préciser quelques noms, parce que ça parlera davantage à vos auditeurs. Il y a par exemple le semencier Maïs Adour, je ne sais pas si vous voyez, ou les tracteurs John Deere, ou bien Limagrain, qui est un géant des OGM, ou bien Rodia, qui est l'ancien Rhône Poulenc, et aussi Bayer Crop Science, qui est une transnationale qui a été mêlée de très près au scandale du gaucho en France. Donc, voilà Agris. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je suis tombé sur un rapport du Conseil économique et social, bon, qui n'est pas considéré, que je sache, comme un groupe gauchiste exalté. Le Conseil économique et social, dans un rapport du 28 avril 2004, écrit exactement ce que je vais vous lire. Pour préserver la confidentialité des recherches entreprises sur la base de financement privé, l'ADEME, organisme gestionnaire d'Agris, n'a pas droit de regard sur l'utilisation de ces crédits, qui peuvent être très importants. Ainsi, un grand groupe chimique français a engagé sur une année un programme de recherche de 2 700 000 euros, soit pratiquement l'équivalent de la dotation budgétaire annuelle d'Agris. Les entreprises privées conduisent leurs recherches en toute confidentialité, mais informent les responsables d'Agris des thèmes sur lesquels elles ont travaillé. Je trouve ça très aimable de leur part d'informer les responsables d'Agris, mais je trouve stupéfiant, inqualifiable que le ministère de l'écologie, par l'intermédiaire de l'ADEME et d'Agris, accepte ce compagnonnage avec l'industrie privée pour une cause que je juge détestable.
Alors justement, on va en venir maintenant à cette fameuse cause, celle des biocarburants, dont vous dites qu'elle est détestable. Jusqu'à présent, on a simplement vu naître et se développer ce que vous appelez un lobby, donc en effet une forme de classique. Vous allez nous expliquer pourquoi classique, peut-être. On peut se demander pourquoi c'est devenu si important que des sommes aussi considérables y soient investies. Quels sont les intérêts de ce lobby au-delà de vendre une surproduction, et surtout, quels sont les impacts de ce lobby et surtout des biocarburants sur notre vie à tous? En quoi est-ce que ça nous concerne au-delà d'être simplement choqués par les rapprochements qui, en effet, semblent peu désirables?
Écoutez, les biocarburants, c'est une révolution planétaire. Je pèse le sens de mes paroles, c'est une révolution planétaire, c'est une sorte de feu de brousse qui court d'un bout à l'autre de la planète et qui va provoquer, qui provoque déjà des conséquences, qui provoque de véritables catastrophes écologiques et sociales, humaines. Je vais parler de la France. En France, d'une certaine façon, c'est affreux, mais je veux dire que ça reste limité. Bon, voilà. Ok, la jachère va disparaître. Elle disparaît déjà sous nos yeux. La petite faune, qui a l'habitude, va morfler. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est celle qui convient. Ok. Et au passage, des gens du lobby de l'agriculture industrielle vont se faire beaucoup d'argent parce qu'il y a des bioraffineries, donc des usines qui fabriquent des biocarburants qui poussent comme des champignons partout en France. Il y a une usine qui va ouvrir au Havre, je le dis parce que c'est très important, qui va ouvrir au Havre en 2008. et qui va recycler des morceaux d'animaux, des graisses animales pour fabriquer du biocarburant. Le groupe Saria, je le dis parce que c'est très important pour moi, ça a une signification très grave. Bon, mais la France, c'est la France. Ok. Maintenant, sur le plan mondial, si vous voulez, il se passe quelque chose d'encore plus foudroyant, si possible. À mon avis, d'après ce que je sais, après cette enquête, en grande partie venue des États-Unis. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Bien sûr qu'il y a des crises de surproduction, puisque l'agriculture est aussi industrielle que chez nous, mais disons, le coup de pouce décisif a été donné par George Bush après les attentats de 2001. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'Amérique s'est retrouvée dans une situation très compliquée, notamment pour ses approvisionnements en pétrole, dépendant beaucoup trop à ses yeux de l'Arabie Saoudite, dont elle commençait à se méfier sérieusement compte tenu du fait qu'une partie des terroristes du 11 septembre étaient saoudiens. Et donc, il y a eu un effet d'aubaine très extraordinaire. Le lobby des biocarburants, au moins aussi puissant, vous l'imaginez qu'en France, a trouvé l'oreille de George Bush et lui a fait miroiter la possibilité d'une certaine autonomie énergétique grâce aux biocarburants. Et Bush a foncé dans l'aventure. Et évidemment, l'idée, c'était de lancer un plan massif de développement de l'industrie des biocarburants. Ça a marché, parce qu'il faut que vous sachiez un truc qui est inouï, là, proprement inouï, c'est que l'Amérique d'aujourd'hui consacre 25% de sa production de maïs, le quart, c'est énorme, c'est gigantesque, à la production d'éthanol, de biocarburants. 25% de la production de maïs aux États-Unis, c'est des biocarburants. Or, les États-Unis, c'est le plus gros producteur mondial de maïs. Alors, vu la nature du marché mondial des céréales, un tel événement ne pouvait pas manquer d'avoir des conséquences en chaîne par des effets de substitution, par des effets de contagion. Et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que la pression sur le prix du maïs a entraîné en cascade une pression croissante sur le prix des céréales dans le monde entier. Il y a eu une première révolte qui en annonce d'autres, je vous le dis solennellement, qui annonce d'autres révoltes de la faim dans le monde. Il y a eu une révolte au début de l'année 2007 au Mexique, que j'ai suivi d'assez près, qu'on a appelée la révolte de la tortilla. La tortilla, c'est tout simplement une galette de maïs, c'est l'équivalent de notre pain national en France. À cause, en grande partie à cause du boom sur le prix du maïs et à cause des biocarburants, le prix de la tortilla a augmenté massivement et brutalement au Mexique. Il y a eu un début d'émeute qui a conduit le gouvernement du Parti d'Action Nationale au pouvoir à immédiatement importer massivement et à bas prix pour les consommateurs du maïs. Ils ont eu très peur. Et ils avaient raison, parce qu'il n'y a rien de plus décisif, comme on le sait en France depuis une certaine année, 1789, il n'y a rien de plus décisif que le prix des céréales. Donc, si vous voulez, on assiste vraiment à quelque chose de fulgurant, c'est-à-dire que à cause de ce boom sur les biocarburants, je le rappelle parce qu'on l'a un peu oublié en route pour faire rouler des bagnoles, à cause de cela, le prix des céréales qui sont la base de l'alimentation des milliards de pauvres dans ce monde est en train de flamber.
Je vais abonder dans votre sens avec une information que j'ai trouvée dans votre livre et qu'on retrouve d'ailleurs à droite à gauche, mais hélas pas partout. Le plein d'un réservoir de 4x4, ça équivaut à l'alimentation d'une personne pendant un an dans les pays du Sud.
Oui.
Alors, pour revenir tout de même à ces cultures dont on n'arrive pas très bien à comprendre si elles sont en surproduction, finalement, où est le problème, puisque la surproduction, eh ben, autant la transformer en quelque chose d'utile et de bon pour la santé, de bon pour la planète, etc. Tout ça, nous allons y revenir. Mais avant d'insister sur les éventuels bienfaits des biocarburants sur la planète et sur la santé de la population mondiale, peut-être devriez-vous préciser quelque chose, Fabrice Nicolino. Il y a deux hypothèses. Si on revient sur l'exemple du maïs, les États-Unis aujourd'hui consacrent 25% de leur maïs à des biocarburants. Deux hypothèses, je le disais, soit ils ont augmenté leur production, et dans ce cas-là, de quelle manière ? Soit ils ont pris sur la production qui était à destination alimentaire. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour l'ensemble des productions de biocarburants aujourd'hui.
Écoutez, la réponse n'est pas simple, donc je ne vais pas essayer de, je vais pas biaiser avec vous, la réponse n'est pas simple. Bien sûr qu'il y a une partie de cette production de biocarburant qui a pu être gagnée de façon marginale sur des terres qui n'étaient pas cultivées ou qui étaient en friche, en jachère, que sais-je, ou quelques forêts par-ci par-là. Alors, je parle là des États-Unis. Mais fondamentalement, c'est au détriment de l'alimentation, soit du bétail, parce que une partie de ce pays était destinée au bétail, soit plus majoritairement encore des humains. Et ce serait déjà très grave, ce que je viens de vous dire sur les États-Unis serait déjà très grave. Et en fait, ça se double d'un phénomène hystérique, j'utilise ce mot à dessein, un phénomène hystérique qui touche l'essentiel des pays du sud de la planète. Dans les pays du sud de la planète, il y a une sorte de frénésie. C'est à qui produira le plus vite et au coût le plus bas des biocarburants qui seront vendus ensuite au nord, c'est-à-dire fondamentalement à l'Europe, aux États-Unis et au Japon. Je vais vous citer quelques exemples. Au Brésil, le Brésil, c'est une sorte de champion, on va dire, des biocarburants de longue date. Parce que le Brésil fait rouler une partie très importante de son parc automobile depuis déjà de longues années avec de l'éthanol, qui est un biocarburant, notamment avec de la canne à sucre. Très bien. Le président Lula, qui est officiellement du moins un homme de gauche, voit dans le développement des biocarburants au Brésil l'occasion pour son pays de devenir un grand. Un très grand même, dans le concert des nations, comme on dit. Le Brésil parle de plus en plus, il n'est pas le seul, d'OPEP verte, d'une sorte de coalition mondiale. D'ailleurs, Lula a reçu triomphalement le président Bush au Brésil cette année, au début de l'année 2007, pour parler de biocarburant. Il y a un axe mondial, Bush-Lula, pour les biocarburants, parce que pour un type comme Lula, c'est un événement extraordinairement positif. Il s'agit de produire sur des millions d'hectares, je dis bien des millions d'hectares au Brésil, des biocarburants qui permettront à ce pays de jouer un rôle accru dans la diplomatie mondiale. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Ces millions d'hectares, d'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est que, par exemple, dans la canne à sucre, il ne faut pas l'oublier tout de même, dans la canne à sucre, j'ai trouvé dans un journal brésilien, par exemple, un chiffrage très 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 précis de ce que ça signifie de travailler dans des cannes à sucre, concrètement, je veux dire, concrètement. On en parle ici au nord, on est tranquillement installé à Paris, mais là-bas, au sud, dans les cannes à sucre, il y a des gens qui bossent du matin au soir comme des esclaves, qui sont surveillés par des gens en armes, et qui doivent faire des gestes mécaniques au milieu de tiges effilées qui leur coupent les mains sans cesse, par dizaines de milliers de fois chaque jour. Par dizaines de milliers de fois chaque jour, il faut donner des coups, je dis bien dizaines de milliers de fois par jour, il faut donner des coups de machette, il faut plier les genoux, il faut déplacer des fagots de canne à sucre, etc., etc. C'est un travail d'esclave.
On peut préciser que une tonne de canne à sucre coupée, c'est 0,75 euros.
Oui, c'est ça. Mais personne ne peut imaginer ça parce que personne n'est à la place de ce travailleur dans les champs de canne à sucre. Pour moi, c'est une ignominie. Je fais le mot, c'est une ignominie. Bon, donc si je parlais de cette flambée dans les pays du Sud, il y a la canne à sucre, il y a le soja, souvent transgénique, au Brésil. Tout ça se prend au détriment et de plus en plus, malgré toutes les dénégations, au détriment du Cerrado, qui est une sorte de savane, de zone intermédiaire avant la forêt tropicale, et aussi sur la forêt tropicale amazonienne. On est en train de faire disparaître à une vitesse que vous n'imaginez pas, une vitesse fulgurante, des pans entiers de la forêt tropicale amazonienne pour les biocarburants qui seront vendus au nord, pour la bagnole. En Argentine, c'est incroyable. J'attends vraiment que la presse française nationale, que la télévision fasse des reportages sur ce qui se passe en Argentine, la dévastation par le soja transgénique au profit des biocarburants. Il y a des peuples entiers, des peuples indigènes qui sont menacés de mort par cela, par cette explosion incroyable. Je lisais encore, il y a une information au Paraguay, il y a deux ou trois jours, des peuples locaux qui sont installés là depuis des millénaires, qui avaient l'habitude d'aller chasser dans un latifundio, dans une grande propriété, et qui le font depuis des millénaires. Cette propriété a changé, elle était forestière, c'était une forêt. Elle a été détruite, cette forêt, on l'a transformée en une zone de soja transgénique pour les biocarburants. C'est trois personnes, un père et ses deux fils, sont allés chasser comme toujours sur une petite colline qui est au milieu de ce latifundio. Ils ont été dégommés au flingue, il n'y a pas d'autre mot, par les tueurs du propriétaire terrien. La réalité, elle est celle-ci. En Argentine, on est en train de vendre une grande partie du pays au biocarburant. Je parle de millions d'hectares. Dans le sud de l'Argentine, en Patagonie, il y a un accord qui a été passé avec les gouverneurs locaux pour l'implantation d'arbres transgéniques destinés au biocarburant. Les arbres transgéniques, je dis un mot là-dessus parce que vous allez comprendre, c'est inouï. Il y a une université américaine qui a trouvé un truc transgénique pour mettre une enzyme dans des arbres, donc pour les transformer génétiquement, de façon à ce que ces arbres produisent moins de lignine. La lignine, c'est une substance qui permet au tronc de tenir debout, d'être ferme, d'être dur. Si, par une manipulation génétique, et c'est le cas, vous diminuez la production de lignine, vous aurez un accès plus rapide et plus commode à la cellulose qui est à l'intérieur de l'arbre et qui sert de matière première, là encore, au biocarburant. Mais vous créez des monstres, des arbres transgéniques sur des milliers ou des dizaines de milliers d'hectares qui évidemment pollueront parce qu'on sait très bien que le pollen sera dispersé aux quatre coins de la Terre. Et ces arbres transgéniques destinés au biocarburant, ce sont des arbres mous. Ça paraît inouï, c'est une grande nouveauté dans l'histoire de la vie sur Terre. Les hommes sont en train de créer des arbres mous et on est en train de planter des milliers d'hectares d'arbres mous pour fabriquer des biocarburants qui serviront à faire rouler les bagnoles au nord, chez nous en France, en Europe, au Japon, aux États-Unis. Ailleurs, sur nos continents, je vais aller vite parce que le temps presse, malgré tout. Dans l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie est devenue le troisième émetteur au monde de gaz à effet de serre. Vous imaginez. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Indonésie est en train de sacrifier ses dernières forêts tropicales primaires pour les biocarburants. Et c'est très simple à comprendre, en fait. C'est très, très simple à comprendre. Les mafieux du Sud, qui sont omniprésents dans les pays du Sud, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas la peine de se raconter des histoires jusqu'à la fin des temps. Les gens qui contrôlent le pouvoir politique dans la plupart des pays du Sud sont des mafieux. Ce sont des gens qui n'ont qu'une idée en tête, comment voler leur peuple un peu plus qu'ils n'ont fait dans le passé, comment trouver les ressources solvables qui vont leur permettre d'ouvrir des comptes bancaires numérotés aux îles Caïmans. Et les biocarburants, c'est là qu'on touche au désastre le plus total. Les biocarburants, c'est un miracle pour les mafieux, un véritable miracle, parce que ils en ont rien à faire, bien entendu, du sort de leur pays, de ce qui arrivera demain ou après-demain, ils en ont strictement rien à faire. Et donc, leur objectif, c'est simple, c'est de planter des millions d'hectares de palmiers à huile, de soja, de canne à sucre, de tout ce que vous voulez, de les vendre au Nord qui ne demande que ça, et d'alimenter de la sorte des comptes bancaires numérotés qui assureront à eux-mêmes et à leurs descendants une vie dorée. Et c'est ce qui est en train de se passer d'un bout à l'autre de la planète à cause de cette demande, de notre demande de biocarburant pour la bagnole. En Afrique, qui était un continent préservé jusque-là, très préservé, par exemple, il y a toujours eu très peu d'OGM en Afrique, tout est en train de changer, là aussi, à une vitesse fulgurante. Je ne vais vous citer qu'un exemple, il faudra en citer d'autres, parce que des pays comme le Sénégal, Mozambique, qui sortent d'une guerre civile monstrueuse, se lancent dans l'aventure des biocarburants, pour les raisons que je viens d'évoquer, hélas. Mais un exemple qui va vous parler, je pense, la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'ancien Zaïre, qui lui aussi est victime d'une guerre civile atroce. La République démocratique du Congo vient de signer un accord historique, il faut bien le dire, avec une société chinoise, le pays, ce gouvernement, un peu fantoche sur les bords, a vendu 3 millions d'hectares de la République démocratique du Congo à cette société chinoise pour qu'elle plante le plus vite qu'il sera possible
des palmiers à huile qui serviront à fabriquer des biocarburants. Je recommence pas parce que je radote un peu, qui iront donc, là où vous savez, dans les réservoirs de nos voitures.
Résumons-nous. On déforeste, on prend sur les cultures alimentaires, on plante des OGM, mais c'est pas grave, puisque finalement on reforeste avec d'autres arbres. Bon, d'accord, ils sont OGM, c'est pas grave, puisque ce sont des cultures non alimentaires, donc ça n'est pas tragique. Et là, me semble-t-il, on est au cœur de ce qu'on peut appeler un délire, en fait. Un délire qui consiste à privilégier, en effet, le moteur des voitures sur les estomacs des humains. Délire qui consiste à imaginer qu'on peut remplacer un écosystème qui s'est forgé sur des millions d'années par de la technologie qui infligerait une nouvelle végétation. On n'a pas encore parlé des pesticides. On pourrait peut-être commencer par là pour... Après ce qui a été évoqué par vous, Fabrice Nicolino, les conséquences sur l'humanité déjà affamée et aussi les conséquences sur la planète elle-même.
Oui, écoutez, je suis navré, je me sens légèrement sinistre. Et croyez-moi, j'aime beaucoup la vie, mais là c'est trop. Là ça va trop loin, ça va trop loin, beaucoup trop loin. Bon, vous parliez de reforestation, etc. Tout ça c'est des attrape-nigauds, bien entendu. Tout ça c'est pour les attrape-nigauds que nous sommes tous. Il y a un truc, excusez-moi de revenir un tout petit peu en arrière parce qu'il y a une chose très importante. Le lobby des biocarburants au plan mondial a réussi à nous faire croire que les biocarburants c'était très bon pour le climat, très bon, que le bilan écologique énergétique des biocarburants était fabuleux, qu'au fond il y a beaucoup d'écologistes, hélas, qui répandent cette fausseté, enfin en tout cas un trop grand nombre à mon goût.
Oui, pas tous quand même.
Pas tous, mais une partie. Et le lobby des biocarburants donc s'accroche à cette idée qui est une idée de pure propagande selon laquelle les biocarburants, donc il y aurait un bilan neutre en matière de carbone. Les biocarburants ne recracheraient dans l'atmosphère que ce qu'ils auraient de carbone, j'entends, que ce qu'ils auraient utilisé au cours de leur croissance, et donc ça serait un bilan neutre à l'arrivée. En fait, il y a des études concordantes menées par de très grands scientifiques, parmi lesquels je veux citer David Pimentel et puis Ted Pastek. Il y a des études vraiment remarquables dans le sens, et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, la question que vous me posiez, remarquables dans le sens où ces scientifiques-là, à la différence d'autres qui, à mon avis, sont de pacotille, ces gens-là intègrent tout. Toutes les dimensions complexes d'une question, et en ce sens, il se rapproche de l'idée que je me fais d'une science complexe, intégrative, plus proche de ce que devrait être l'écologie scientifique aujourd'hui. Ces gens-là ont absolument intégré toutes les données de la question et trouvent des chiffres qui sont effarants et qui démontrent amplement que non seulement les biocarburants ne préservent pas le climat, contrairement à ce que dit la propagande, mais il l'aggrave dans des proportions considérables. Le développement des biocarburants va aggraver l'effet de serre et absolument pas du tout arranger quoi que ce soit, hélas. On est en face d'une, disons, on pourrait en rire si c'était pas évidemment aussi grave, c'est tellement grossier, c'est tellement manipulateur, c'est tellement honteux, c'est tellement mensonger, évidemment on pourrait prendre ça pour une farce et rigoler ensemble. Hélas, ça me donne modérément envie de rire parce que à l'arrière-plan, il y a la fin massive des humains, il y a la destruction d'écosystèmes entiers qui ne reviendront pas sur leurs pieds, parce que comme vous le disiez très justement, des écosystèmes complexes, c'est un point qu'on ne peut même pas imaginer, les écosystèmes, par exemple, des forêts tropicales primaires, qui sont parmi les plus riches de la planète, ces écosystèmes qui disparaissent, par exemple, l'orang-outan est en train de mourir en liberté, en Indonésie notamment, en grande partie à cause des biocarburants. En ce moment, il y a une accélération parce que on plante des palmiers à huile, dans ces plantations de palmiers à huile, il y a des snipers, comme dans l'ancienne Yougoslavie. Il ne faut pas se tromper. Il y a des gens armés de fusils avec un viseur et qui sont chargés de buter les derniers orang-outans qui traînent dans la région parce que les orang-outans ne savent plus où aller, se répandent dans ces plantations industrielles et mangent les feuilles tendres des palmiers à huile qui doivent servir au biocarburant. Et donc les derniers orang-outans, je vous l'annonce, sont en train de disparaître de la planète. Et bien sûr qu'ils étaient menacés de mort auparavant, mais leur disparition va être accélérée par le fait qu'on plante là-bas par millions d'hectares des palmiers à huile. Et ça va être pareil pour l'éléphant d'Asie. Et puis un nombre absolument incalculable d'espèces qui nous intéressent beaucoup moins, mais qui sont extrêmement précieuses, en tout cas à mes yeux, des papillons, des insectes, des oiseaux, des petits mammifères dont personne n'a entendu parler, mais qui vont eux aussi disparaître à tout jamais. Et toujours, toujours avec le même intérêt, le même but final, c'est-à-dire remplir le réservoir de nos saloperies de bagnoles. Parce que à l'arrivée, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est bien de ça qu'il s'agit, et j'aimerais bien en parler un petit peu. C'est derrière tout ce processus mortifère, angoissant au dernier degré, il y a notre appétit de rouler en voiture, et il y a notre aliénation collective.
Bon, vous avez trouvé que j'exagère, Fabrice Nicolino, mais non, je ne vais pas encore vous laisser arriver sur ce sujet qui clôt, en effet, votre livre terrible, celui sur la voiture, mais je vous laisserai, et effectivement, je vous y accompagnerai sur ce sujet-là, mais peut-être est-ce qu'il m'en faut trop, peut-être est-ce que on n'a pas besoin d'insister tant, tout de même. Je voudrais revenir, vous venez de parler des orang-outans, vous venez de parler de la perte de la biodiversité, vous avez évoqué tout à l'heure les esclaves qui travaillent dans les champs de canne à sucre et ce père et ses enfants qui sont morts, tués à bout portant par des milices qui protégeaient des cultures. Tout de même, je voudrais qu'on insiste un petit peu sur cet aspect-là, celui de la faim, puisque aujourd'hui ce sont des populations entières qui sont déplacées, expropriées, qui sont renvoyées des terres qu'elles cultivaient depuis très longtemps et envoyées sans rien à manger dans des bidonvilles. Et puis surtout, demain, ou peut-être même déjà aujourd'hui, la Chine et l'Inde.
Oui, vous avez bien sûr raison, mille fois raison. C'est peut-être par là qu'il aurait fallu commencer. En fait, ici, si vous voulez, à l'arrière-plan de tout ce que je viens de dire, il y a un événement plus qu'essentiel. Je n'en connais pas de plus important à l'échelle du monde. Personne n'en parle. C'est tout de même curieux. Il y a deux civilisations agricoles plurimillénaires, la Chine et l'Inde. Et croyez-moi, c'est pas une plaisanterie. Et même si on n'en parle pas dans les journaux, ça n'est pas une plaisanterie. La Chine et l'Inde sont des civilisations assez stables, agricoles, et stable depuis des millénaires. Ces deux civilisations sont en train de s'effondrer. Elles sont en train d'exploser parce que le système agricole, industriel, mondial les a rattrapées. La Chine vend, il n'y a pas d'autre mot, son système agricole vend ses paysans, vend sa structure agraire qui est unique au monde, au marché mondial, par l'entrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Je n'entre pas dans les détails, mais c'est fondamental parce que, si vous voulez, les chiffres officiels, je dis bien officiels chinois, pas les miens, pas ceux que j'ai inventés hier au soir, mais les chiffres officiels chinois parlent d'environ 150 millions de Mingong. Mingong, c'est un mot chinois qui désigne ce qu'on appelait chez nous jadis les vagabonds, les cheminots, les gens un peu déracinés. Il y en a actuellement 150 millions. Il y a environ 150 millions de ruraux, de paysans qui sont comptés chassés de leurs terres pour une raison très simple. C'est qu'ils sont en concurrence désormais avec soit nos agriculteurs de la Beauce, soit ceux du Midwest américain, gorgés de subventions, utilisant massivement, comme vous le savez, des engrais, des pesticides, donc avec une productivité qui n'a strictement rien à voir avec celle du petit paysan chinois. Le marché chinois s'ouvrant à ces productions qui déferlent, eh bien, le paysan chinois disparaît, il n'a plus sa place dans la campagne où il habitait depuis des millénaires. Il se rend dans les villes, on ne l'accueille pas à bras ouverts. Vous voyagez aujourd'hui en Chine, dans n'importe quelle gare de la Chine, jusqu'au fin fond de la Chine, jusqu'en dans la plus petite commune où il y a une gare, vous trouvez des gens, des vagabonds qui couchent par terre dans la salle principale de la gare et qui attendent quoi, je ne sais pas. Donc il y a 150 millions de Mingong, retenez ce mot, Mingong, il y en a 150 millions, il y en aura peut-être 300 millions demain, c'est le plus grand exode de toute l'histoire de l'humanité. On assiste aujourd'hui en Chine au plus grand exode de toute l'histoire de l'humanité, personne n'en parle. C'est quand même assez curieux. En Inde, le phénomène est assez voisin, même si le système finalement se montre plus protecteur vis-à-vis de ces populations rurales que le système chinois. C'est un paradoxe. Est-ce vraiment d'ailleurs un paradoxe? En tout cas, le système communiste maoïste chinois vend son peuple, ce que ne fait pas, en tout cas pas au même rythme, le régime indien. Mais de toute façon, ces deux paysanneries qui sont la colonne vertébrale, je le dis dans le livre et je crois profondément à cette formule, ces deux paysanneries qui regroupent à peu près 2 milliards d'individus, c'est la colonne vertébrale réelle du monde. C'est-à-dire qu'il y a ce dont on parle en France, dans les journaux, comme il faut, bien installé. On parle de ce qui intéresse, paraît-il, les Français ou les Européens ou les Américains. On ne parle jamais de ça, jamais de ces gens-là. Or, le monde réel, c'est plutôt les paysans chinois et les paysans indiens que la petite caste, excusez-moi, mais la petite caste, qui tient le pouvoir et la parole publique à Paris, Londres et New York. En tout cas, c'est un événement absolument colossal et beaucoup de signaux nous disent que le monde se dirige à pas rapprochés, cadencés, de nouvelles famines de masse. Il y a déjà 1 milliard d'humains qui souffrent de la faim sur Terre. Ce sont les chiffres de la FAO, hein, de l'agence de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation. 1 milliard d'humains. Mais vraisemblablement, le développement inouï des biocarburants va pousser des centaines de millions d'autres humains à connaître les joies de la faim. Parce que je vous en prie. Non, mais il y a par exemple, vous voyez, il y a un produit dont ici on ne parle pas parce que on ne sait même pas que ça existe, mais le manioc, c'est une nourriture de base pour des centaines de millions d'hommes et de femmes et d'enfants en Afrique, en Asie et aussi en Amérique latine. Le manioc, même le prix du manioc est en train d'augmenter, vous voyez ce que je veux dire? Et il faut comprendre ce que ça signifie, c'est-à-dire dans la diète quotidienne d'un type, d'une famille de pauvres du Sud qui n'a pas un radis et qui se demande chaque matin en se levant comment ils vont faire pour trouver les quelques piécettes pour acheter ce qui leur donnera à manger au marché du coin. Il est certain qu'une augmentation du prix des céréales, qui est la base de leur alimentation, c'est une catastrophe, c'est une semi-condamnation à mort. Qu'est-ce que ces gens vont faire? Ils vont envoyer leur fille se prostituer, non plus à l'âge de 12 ans, mais à l'âge de 8 ans. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, ces gens, pour continuer tout simplement à manger? Je vous le demande, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ce CFD rappelle que, pour la plupart des pauvres, il leur faut consacrer 40 à 60% de leur budget à l'alimentation, 90% pour les plus pauvres. Chiffre à rapprocher de ce que vous venez de dire. Et c'est là que je voulais en venir, Fabrice Nicolino, c'est qu'on n'est qu'au début du processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore relativement peu de cultures destinées aux biocarburants. Si ce n'est que ce relativement peu explose. Il se développe et se décuple à toute allure et qu'on n'en est qu'au début du processus.
Oui. Enfin, non, je ne dirais pas qu'on est au tout début. Malheureusement, il y a déjà des millions d'hectares qui sont plantés pour les biocarburants. Mais ce qui se profile, c'est des dizaines de millions d'hectares. Ce qui se profile, c'est une révolution du paysage planétaire. Une révolution du paysage planétaire à cause des biocarburants. Donc c'est très simple, enfin, très simple. C'est tragique, mais aussi assez simple. Où les opinions très vite, dans les quelques mois qui viennent, vont être capables de monter des coalitions très puissantes pour stopper ce processus qui est un processus de mort, ou bien le paysage de la planète va changer une nouvelle fois en pire, en bien pire. Et quand vous entendrez à l'avenir, si ce processus n'est pas stoppé très vite, si quand vous entendrez à l'avenir des politiciens, qu'ils soient français, américains, ou japonais, ou anglais, ou quoi que ce soit, d'où que ce soit d'ailleurs au nord, parler de protection de la biodiversité, de protection des forêts tropicales ou de protection de l'homme, tout simplement, de lutte contre la faim, je vous autorise et je vous encourage même à rire. Parce que franchement, si nous ne sommes pas capables de stopper ce processus, on vivra tout ce que je viens de dire. Moi, je prends mes responsabilités et je vous le dis.
Mais alors, tout ça, pour la voiture, Tout ça pour des moteurs de machines.
Ça, c'est la folie complète. C'est vraiment l'affreuse cerise sur l'abominable gâteau. C'est incroyable, en fait. Mais si vous voulez, ça renvoie, c'est un autre débat. Ça renvoie, en fait, à l'aliénation collective dans laquelle nous sommes tous plongés. Il y a une trentaine d'années, 30, 40 ans, au début du mouvement écologiste en Europe et en Occident, il était très courant d'utiliser ce mot d'aliénation. C'est-à-dire, on essayait de comprendre par quel effet surprenant tant de gens, finalement, œuvraient et consommaient au détriment de ce qui paraissait être leurs intérêts. Le mot a passé de mode, vraiment. Et moi, je considère qu'il désigne pourtant quelque chose de fondamental. Ce processus nous rend étrangers à nous-mêmes, nous rend étrangers à nos vrais intérêts. Et il y a des millions et des millions de gens, hélas, dans un pays comme la France, qui considèrent que la bagnole individuelle, c'est plus important que tout. Vous remarquerez, dans les discussions de salon, il est beaucoup plus facile d'évoquer la fin de la planète, aujourd'hui, ce qui est quand même inouï. La fin de la planète, la fin de l'homme, que sais-je, je veux dire, on y va gaiement maintenant, ça ne dérange personne, parce que de toute façon, ça paraît tout à fait inconcevable, invraisemblable, ou de toute façon, bref. Moi, je vais vous dire un truc très simple. Pour moi, la bagnole, c'est l'ennemi juré aujourd'hui de l'humanité et de tout projet humain digne de ce nom. Ceux qui ne sont pas capables de remettre en cause radicalement la place de la bagnole et le fait qu'une bagnole ne peut pas être servie avant les hommes et avant les écosystèmes, quelqu'un qui n'est pas capable de ça, je ne sais pas quel qualificatif lui donner, je vous laisse le soin de le trouver. Ce que j'ai en tête et que je pourrais spontanément dire serait sans doute mal compris parce que c'est trop violent. En tout cas, je crois que la bagnole doit revenir à sa place, qui doit être une place subalterne et pas une place centrale décisive dans la conduite des affaires humaines.
La bagnole, le blé et nous, un livre enquête de Fabrice Nicolino qui sera donc publié aux éditions Fayard le 4 octobre. 4 octobre, une journée faste puisque nous serons nous-mêmes ce jour-là au Phytobar, 47 boulevard Saint-Germain, à partir de 19h pour y débattre publiquement du Grenelle de l'environnement. D'ici là, n'hésitez pas à télécharger cette émission sur notre site franceculture.com. Vous y retrouverez la revue de web hebdomadaire et les émissions des deux mois précédents. N'hésitez pas non plus à nous téléphoner. C'est au 01 56 40 36 72 ou à nous écrire à terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Juste Legacy, préparation, documentation, Laurence Genetin, Anne Gouzon, mixage, Serge Ristich, réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.